Merci Sébastien pour cette pause musicale. Nous sommes toujours en direct et en vivant de la Maison de l'Europe de Tours. Je le rappelle, 97 boulevard Jean Royer. Cette émission se poursuit. Donc nous parlions du corps européen de solidarité. Merci à Laura Hernandez d'être venue nous parler de YFU France. Donc Astrid Courty, on va poursuivre sur ce sujet. On va se pencher sur la question du corps européen de solidarité à la Maison de l'Europe. Et nous accueillons sur notre plateau votre volontaire, Federico, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors peut-être Astrid Courty, tout d'abord, nous expliquer comment ça se passe ces missions à la Maison de l'Europe. Ça existe depuis quand, c'est pour quels jeunes. Et après, on aura le plaisir d'entendre Federico qui pourra nous parler de sa mission.
Alors déjà, depuis quand ça existe à la Maison de l'Europe? Écoutez, moi je suis arrivée en 2014, il y avait déjà des jeunes qui étaient accueillis en volontariat européen. Alors à l'époque c'était le service volontaire européen, et donc c'est devenu en 2018 le corps européen de solidarité. Donc finalement ça fait longtemps, voilà, donc ça fait vraiment depuis finalement le début des années 2010 hein, que la Maison de l'Europe s'est lancée donc, dans l'accueil de jeunes volontaires européens. Et donc, il y a eu un peu toutes les nationalités qui sont passées chez nous, des jeunes filles, des jeunes hommes, vraiment de tout. Pourquoi est-ce qu'on accueille ces jeunes? Finalement, au niveau d'une maison de l'Europe, pour nous, ça nous paraissait logique hein, d'accueillir des jeunes européens. Parce qu'ils incarnent finalement cette diversité, cette culturalité variée de l'Union européenne, cette interculturalité, hein, on en a parlé tout à l'heure avec Laura. Ils incarnent vraiment cette Europe, cette Union européenne qui est variée, qui est diverse et très intéressante. Et puis pour nous, ils apportent aussi des nouvelles idées. Un nouveau regard sur ce que l'on fait, ça fait partie aussi de leur mission, hein, donc d'être finalement des ambassadeurs hein, de cette Union européenne, de ces cultures européennes, mais aussi de nous aider à trouver de nouvelles façons de parler de l'Union européenne, plus modernes peut-être, hein, des façons plus appropriées de parler d'interculturalité. Ils sont vraiment les témoins vivants hein, lorsqu'ils rencontrent des jeunes dans les lycées, dans les établissements scolaires, des jeunes qui parfois se posent des questions, qu'est-ce que je peux bien faire, qu'est-ce que c'est que ce corps européen de solidarité, la mobilité, etc. Ou qui ont peur parfois aussi de se lancer hein, dans des mobilités internationales. Et nos jeunes, Federico cette année, sont là pour vraiment témoigner, rendre vivant cet échange et finalement leur montrer que moi je l'ai fait, pourquoi pas vous.
Voilà, et bien laissons la parole à Federico. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire sur cette mission?
Ah oui, merci beaucoup. Mon mission, c'est surtout, comme Astrid a déjà dit, de parler à les jeunes, d'aller faire des interventions dans le lycée, le collège, pour parler de l'Union européenne et surtout de le corps européen de solidarité. Donc, expliquer à les jeunes pourquoi c'est une expérience incroyable, pourquoi c'est joli, c'est une bonne expérience de partir à l'étranger avec des projets de l'Union européenne. Parce que une autre chose que je trouve super, super dommage, surtout en Italie, c'est qu'il n'y a pas personne qui connaît l'existence de tous ces projets de mobilité pour les jeunes de l'Union européenne. Et avoir la possibilité de parler à les jeunes, de les présenter, c'est super intéressant. Et je rappelle une fois, une jeune, après une intervention que nous avons faite dans le lycée, ce jeune est venu et m'a dit « Ah, c'était super intéressant, je ne connais pas du tout ça, je voudrais partir avec le militaire, mais maintenant que tu m'expliques ça, j'ai changé mes pensées, je veux partir avec ça. » Et je trouve que ça, c'est ma raison pourquoi j'ai choisi cette mission, d'expliquer à les jeunes qu'est-ce qu'il est, comment ça fonctionne, et aussi de dire, je l'ai fait. Je connais, vous pouvez regarder, vous pouvez voir que je suis ici. C'est pas trop difficile à faire, c'est surtout dans l'Union européenne. Une autre chose intéressante à dire, c'est que c'est aussi payé, donc ça va pour toutes les personnes. Il n'y a pas de problème d'argent, parce que vraiment tous les jeunes peuvent partir à l'étranger. Et oui, pour moi, c'est ça le... Pourquoi j'ai choisi ce type de mission et qu'est-ce que j'ai fait.
Et alors pourquoi une mission en France?
Je vais dire que quand j'ai choisi ma mission, j'ai pas regardé le pays. Je me suis focalisé sur le titre de mission. Et après, quand j'ai regardé le profil de la Maison de l'Europe, j'ai dit que c'était une mission super intéressante. Je connais déjà un peu le français et je me suis dit, d'accord, la France, ça va. Le projet, c'est super intéressant. Je voudrais le faire. On prouve, on fait la demande. Et après, je suis venu ici et c'était super.
Est-ce que tu avais déjà des compétences en français avant de venir ici?
Oui, je connais déjà un peu le français, mais c'était drôle ça parce que j'ai fait un examen à l'université d'analyse de politique, de discours politique en français. Donc je suis arrivé ici que je connaissais super bien le français politique, mais le français de tous les jours, pas du tout. Les premiers jours que je suis allé à faire les courses au supermarché, tout le temps avec le Google Translate pour dire, parce que je connais pas du tout le français de tous les jours.
Donc ça veut dire qu'avant de venir ici, tu étais étudiant.
Oui.
Qu'est-ce que tu étudies alors?
J'ai étudié politique internationale, relations internationales à l'Université de Turin.
Et après cette mission?
Ah, après ces missions, je ne sais pas encore. Je voudrais faire une autre expérience de volontariat aussi à l'étranger. La seule chose que je suis sûr, sur laquelle je suis sûr, c'est que je n'ai pas trop envie de rentrer chez moi en Italie. Je voudrais continuer à vivre à l'étranger, à faire des autres expériences de vie. Je ne sais pas si ici en France ou dans des autres pays à l'étranger.
Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu as pu faire? Est-ce que tu as découvert des choses nouvelles qui t'intéressent, auxquelles tu n'aurais jamais pensé avant?
Une chose que j'ai découvert cette année, c'était que j'aime vraiment beaucoup travailler avec les écoles, avec les jeunes. Avant de venir ici, mon parcours, c'était très dans la politique et je n'ai pas fait beaucoup de choses avec les jeunes. Ici, en ayant la possibilité de travailler, de faire des interventions dans les écoles, dans les lycées, j'ai vu que j'aime bien partager mon expérience, parler avec les jeunes, travailler avec les jeunes.
Est-ce que tu veux nous dire peut-être ce que Astrid Courty expliquait, la mise en place de supports, de documents pour travailler pour les jeunes? Est-ce que c'est des choses que tu as fait?
Oui, sur le corps européen de solidarité, c'est une chose que beaucoup de personnes me demandent, la part pratique, comme ça fonctionne. Donc, il y a le portail européen de la jeunesse, ça s'appelle le portail où tu vas pu trouver tout le type de mission. Tu peux chercher pour pays ou pour thème de la mission. Après, tu vas regarder toutes les propositions qu'il y a dans l'Union européenne et tu fais la demande. Pour faire la demande, normalement, c'est tu en anglais. C'est le seul truc principal que tu dois comprendre un peu l'anglais. Et après, pour faire la demande, tu dois avoir un curriculum vitae en anglais et écrire une lettre de motivation. Et pour moi, la lettre de motivation, c'est pas trop important l'expérience que tu as déjà fait, mais la motivation. Pourquoi tu es intéressé? Pourquoi tu veux participer à sa mission? Et une fois que tu fais la demande, tu vas faire une rencontre en ligne avec l'association. Et après, si tu es prêt, tu vas avoir avec l'association d'accueil, l'association d'envoi, tu la pars bureaucratique, je vais dire, le billet, comme je vais le billet de l'avion ou de le train, le logement, tu la pars plus bureaucratique. Mais à niveau pour faire la demande, la chose plus importante, c'est la lettre de motivation.
Alors, quel conseil pour les jeunes qui nous écoutent pour être sûr d'être pris en mission quelque part?
Je pense que la première chose, c'est de chercher sur le thème de l'activité. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ne se concentrer pas trop sur le pays. Le thème de l'activité, c'est vraiment super, super important parce que tu vas faire une mission de plus de pour beaucoup de temps. Et si tu vas faire un travail que tu n'aimes pas, c'est dur. Donc, concentrer sur la mission et pas trop sur le pays. Aussi, sur la langue, c'est pas trop important. N'hésitez pas à choisir de partir si vous ne connaissez pas trop l'anglais ou si vous ne connaissez pas la langue du pays où vous voudrez aller. Et après, la lettre de motivation, c'est la chose la plus importante. Écrivez bien pourquoi vous êtes intéressé dans cette mission, votre motivation, Et une autre chose que je dis tout le temps, c'est de qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à la mission?
D'ailleurs, effectivement, l'une des choses qui nous avait beaucoup plu lorsque nous avions rencontré Federico, donc en entretien virtuel, c'est que il en a parlé tout à l'heure. Il souhaite à son retour à vraiment être ambassadeur et devenir ambassadeur de ce programme auprès des jeunes Italiens, puisqu'il a senti un déficit hein, au niveau local ou en tout cas au niveau de Turin. De communication envers sur ce programme envers ses semblables et envers les jeunes. Donc ça, c'est vrai que c'est cette motivation aussi à finalement ne pas juste faire un one shot pour soi et pour soi seul qui nous en tout cas nous a motivés et nous a dit bah, ce jeune-là, on sent qu'il a envie de donner une suite aussi à ce qu'il a envie de faire. C'est pas juste pour lui, mais il a aussi envie de s'engager pour les autres et c'est aussi le cas. Enfin, c'est l'essence du Corps européen de solidarité, c'est de s'engager pour les autres. Bien sûr, ils apprennent plein de choses, mais c'est aussi de s'engager pour les autres. Et là, on le sent, cette motivation et le plaisir qu'il a aussi à rencontrer les jeunes lycéens et à parler avec eux. Et je dois dire qu'effectivement, hein, Federico, lorsqu'il est arrivé, il ne parlait pas de français courant. Il arrivait à le lire, comme beaucoup d'Italiens, ou beaucoup de Français d'ailleurs, arrivent à lire l'italien et vice-versa. Mais par contre, le parler, c'était difficile. Et puis voilà, on est en juin et il se débrouille extrêmement bien.
Oui, bien sûr, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas étudié le français à le niveau de tous les jours. Mais le fait d'être dans un environnement où je parle tous les jours français et je suis accueilli dans cet environnement, je me sens vraiment à la maison de l'Europe. C'était super intéressant et super, mais aidé beaucoup à l'apprendre mieux le français.
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de jeunes gens qui veulent venir à la Maison de l'Europe dans le cadre d'un volontariat européen?
Alors, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, effectivement. Alors, 2021-2022 était un peu particulière, mais ça, dans tous les programmes, hein. Il y a eu un peu moins de candidatures en septembre 2021. Là, il y a eu un peu moins de candidatures, mais c'était aussi le cas pour le service civique et c'était un peu général. Mais en revanche, enfin, d'habitude, on reçoit quand même énormément de demandes. Et d'ailleurs, nous, c'est toujours un crève-cœur parce qu'on ne peut pas malheureusement accueillir tous ces jeunes qui ont tous des profils très remarquables et des motivations voilà, vraiment variées, mais toutes très intéressantes. On est obligé d'en choisir un ou une, mais en général, après, on a aussi beaucoup de bonheur à retrouver des jeunes qui avaient postulé chez nous, chez par exemple nos collègues de d'autres maisons de l'Europe. Hein, ce fut le cas d'une jeune Hollandaise qui avait postulé chez nous, puis finalement qui est à Nîmes. Voilà, donc on se dit que finalement, ces jeunes, puisqu'ils ont la motivation, bah, ils arrivent à trouver des missions ailleurs, pas forcément chez nous, s'ils ne peuvent pas venir chez nous, mais voilà, dans tous les cas, en général, les jeunes arrivent et parviennent quand même à trouver des missions. Ça demande plus ou moins de temps selon un petit peu le type de mission, suivant le pays, suivant les organisations. Ça dépend un petit peu, mais en général, les jeunes arrivent tous au bout d'un moment à trouver quelque chose.
Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les autres volontaires des maisons de l'Europe?
Avec les autres volontaires de la Maison de l'Europe, pas trop, mais dans le Corps européen de solidarité, il y a, quand, au début et au milieu de la mission, des rencontres, des séminaires avec les autres volontaires européens qui sont dans le pays. Au début, c'est fait avec des formatures de le Corps européen de solidarité à niveau national. Puis expliquer comment fonctionne le Corps européen de solidarité en pratique, puis rassurer, puis permettre aussi de créer un groupe entre les volontaires, des personnes qui font du volontariat à niveau européen dans le même pays. Et à midi, le séminaire, c'est la même chose, une semaine de séminaire sur comment je peux profiter de mon expérience, que c'est aussi super important parce que. À midi, tu commences à penser, à, je suis à midi de mon projet, l'année prochaine, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, peut-être. et dont je, comme je peux mieux profiter de, ce, de l'expérience, comme je peux écrire, l'écrire dans le curriculum vitae, comme je peux rendre mieux l'expérience et parler avec de, les personnes de cette expérience.
Est-ce que ça, ça permet aussi de créer des liens avec d'autres jeunes d'autres pays, de se dire « Ah, c'est génial de rencontrer plein d'autres... »
Oui, je pense que c'est tout à fait possible parce que dans le... À niveau de volontariat, de volontaires européens qui sont dans le même pays, ils sont de personnes qui ne sont pas français ici. Ils sont des personnes qui arrivent de tout le pays de l'Union européenne. Et durant, pendant le séminaire, tu vas le rencontrer, à faire les amis, à le connaître. Et tu vas, par exemple, pour moi, j'ai le groupe de, du séminaire que j'ai fait. Et quand il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je voudrais venir te visiter », et tu vas faire des connaissances qui sont super, super intéressantes, super intenses aussi, parce que c'est une expérience en commun particulière que pas tout le monde va faire, malheureusement, je vais dire. Et donc, tu vas créer aussi un peu de connexion entre des gens qui arrivent de toute l'Europe. Et c'est magnifique aussi, ça.
D'ailleurs, Federico mentionne comment on met ça sur un CV. Donc, est-ce que ces expériences-là, elles sont valorisées par les employeurs ?
Alors, effectivement, une étude qui avait été faite par l'agence Erasmus+, alors c'était plus côté Erasmus+, mais c'est vaut aussi pour le Corps européen de solidarité, mais cette étude a démontré que à CV égal, formation égale, un jeune qui a fait une mobilité, qu'elle soit européenne ou hors Union européenne, bien sûr, mais a finalement plus de chances d'être embauché sur un poste que le jeune qui n'aurait pas fait cette mobilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que les jeunes, lorsqu'ils sont en mobilité, ils grandissent. Ils sont en autonomie, loin de chez papa-maman. Donc, ils sont obligés de se responsabiliser, de prendre les choses en main. J'ai un problème, bien sûr, leur structure d'accueil est là pour les aider, les soutenir, mais c'est eux qui se prennent quand même en main la plupart du temps et qui, même avec de l'aide, parviennent à résoudre leurs problèmes. Donc, finalement, c'est plus papa-maman qui s'occupent de tout ça. Ils rencontrent des gens, donc du réseau aussi. Donc les jeunes que tu as rencontrés, Federico, cette année, ce sont des jeunes qui travailleront plus tard, donc qui pourront faire partie de ton réseau professionnel plus tard. Donc tout ça, ce sont des ouvertures qui, pour de futurs employeurs, sont intéressantes, parce qu'on s'ouvre vers, pourquoi pas, l'Espagne, la République tchèque, la Pologne, etc., la Roumanie, voire des pays plus loin, puisqu'il y a aussi des Turcs, par exemple, qui sont accueillis, ou des Géorgiens, etc. Donc, tout ça, ce sont des ouvertures qui, pour les futurs employeurs, sont importantes. Et puis, ce sont des jeunes qui améliorent considérablement leur anglais. Alors là, je parle plutôt pour les jeunes français qui partent dans les autres pays de l'UE, parce qu'effectivement, en France, on est quand même l'un des rares pays où la particularité est que l'on ne parle quasiment jamais anglais sur nos interventions, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, hein, je dois bien le citer. Beaucoup de jeunes, par exemple en Estonie, en Allemagne, etc., parlent anglais très bien. En France, si on commence à parler anglais, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça que les jeunes qui viennent en France doivent absolument apprendre le français et avoir cette appétence pour la langue française. Sinon, ça devient très compliqué pour eux. C'est des particularités de notre pays, je dirais. Mais en tout cas, il aura la chance, Federico, d'avoir appris le français. Et d'avoir vécu avec des Français, donc de connaître aussi le rythme de travail de Français. Donc tout ça, ce sont des plus-values pour de futurs employeurs que n'aurait forcément pas connu un jeune Italien qui n'aurait jamais vécu ce genre de mobilité.
Alors évidemment, je ne résiste pas à demander à Federico, est-ce que tu as vu des choses, des bizarreries chez les Français auxquelles tu ne t'attendais pas ?
Bien sûr que je l'ai vu. Et on rigole beaucoup sur ça parce que sur, par exemple, sur la nourriture, je suis très, très italien. Et les plats italiens sont faits comme on dit, pas comme le français dit. Et pour moi, je rappelle que la première fois que j'ai vu le carbonara fait avec la crème fraîche, c'était drôle et un peu énervant. Des autres choses aussi sur la nourriture, les pizzas, je vais dire que... Ici, il y a des pizzas qui sont pas mal, mais sont décidément plus chères qu'en Italie.
Alors, la pizza à l'ananas aussi, il ne faut surtout pas en parler à Federico. la pizza hawaïenne. Hein. Il déteste ça et bien sûr, ce n'est absolument pas italien.
Non,
charrie beaucoup.
C'est absolument ni de la pizza ni de la nourriture. D'ailleurs, faut le préciser. C'est, on ne sait pas ce que c'est encore. C'est...
Non, oui, c'est une chose canadienne et je ne sais pas pourquoi l'ont inventé, l'ont créé parce que c'est absolument terrible.
Et puis quel affront de prétendre que c'est italien surtout.
Oh, non, c'est pas italien. Je vais dire, je le dis tout le temps, tu le vois que les personnes me disent « Ah, la pizza à l'ananas, c'est italien. » Non. La pizza, c'est italien, mais pizza à l'ananas n'existe pas en Italie. Si tu vas demander une pizza à l'ananas dans un restaurant en Italie, tu vas finir mal.
Incident diplomatique.
Et peut-être d'autres choses sur le, je sais pas, la façon de travailler, est-ce que les gens, même, je pense à toutes les façons de se comporter quand on doit faire la queue pour aller prendre le bus, des choses comme ça.
Une chose très différente que j'ai vue ici en France, c'est que c'est pas une critique, mais vu que le français est très très tranquille, quand nous Italiens nous sommes décidément plus, je vais dire, ouverts. Plus accueillant un petit peu. Par exemple, si je vais dans un bar en Italie, après 20 minutes, j'ai déjà parlé avec toutes les autres personnes dans le bar. Et ici en France, il y a le groupe et tu ne vas pas mixer les différents groupes. Si tu sors avec ton groupe d'amis, tu vas rester seulement chez lui et tu ne vas pas trop parler avec des autres personnes qui sont dans le même bar, dans le même pub.
C'est-à-dire que c'est pas très facile de se faire des amis français au début, en tout cas.
Oui, c'est pas trop facile, surtout parce qu'au début, quand je connais pas trop le français, la barrière linguistique, c'était un peu compliqué parce que je comprends pas pourquoi le français ne parle pas trop l'anglais. Parce que j'ai vu beaucoup de français qui connaissent l'anglais, mais ils ne veulent pas le parler. Et pour moi, c'est bizarre parce que je dis... Je fais aussi beaucoup de blagues en français, mais j'essaie de parler. Vous pouvez essayer de parler en anglais sans problème, parce que c'est une langue aussi, je vais dire, pour moi c'est plus facile que le français. Mais je ne comprends pas trop pourquoi il y a la peur de parler en anglais, de faire de blagues en anglais, quand c'est absolument normal pour moi.
On en est resté encore à la guerre de 100 ans, là, on ne l'a pas digéré.
Ou alors c'est peut-être qu'il y a un complexe français autour de notre excellent accent anglais et du coup les gens ont honte et osent pas trop.
Et pourtant il a été apprécié outre-Manche, hein. Ah. On l'a vu dans certaines émissions.
Ah, je veux dire aussi que mon accent anglais c'est très très italien, mais ça va. Aussi en français mon accent c'est très très, très italien, mais aussi ça va.
Voilà, c'est l'anglais international alors. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Je pense qu'on peut faire une nouvelle pause musicale. Alors, qu'as-tu dans ta besace, Sébastien ?
Ben justement, on va rester sur de l'anglais. On va écouter un rappeur irlandais, parce que donc, pas anglais, puisque il y a eu depuis le Brexit. Donc, tu vois, j'ai choisi un rappeur irlandais, mais qui justement lui se produit dans l'Union européenne et qui vient pas mal faire de scène en France. Il s'appelle Reggie Snow. C'est un titre qui s'appelle Meddling Loops et c'était sur son premier EP, je crois. C'était sur Rejovic. On l'écoute tout de suite.
Spit scabber, I'm harvesting green cannabis and spitting out saliva as yucky as green bandages and scavenging and handling pretty fuckers. I'm damaging you rappers with charisma, as happy as saying I'm handsome. Munching the right arm and the dinosaurs is phantom. Robbing the Jews gold and I'm selling grills for the ransom. Sliced the mutation and scarred the bar with a rare liquor. Backstabbing the names of Malcolm X and cotton pickers. I'm fucking posted, I'm stuck rapping the Moses and the sins of a good man. Shark boarded in potions and lotions, a skeptical villain, I killed Joseph. Rapping a track dirty like two priests in a brown cup. Still spitting the heat in the lava, sweaty as armpits. Killing the hill soft, you're like Lauren picking my toothpick. Wicked as 10 nuns in the pub, sipping the Greek scotch. Damaging you suckers like Christ, twisting his dreadlocks. Deadlock, sharecrop cotton picker with no socks. Nike Air Max balaclava matching the pink socks. Staring the judge in his fucking mug, I'm so goon. I spit these rhymes pokey for the pigs to drink their coffee to. Cruising in the Beamer, it's 10
in the dark as the black jokes, talking about some niggas in a tree with a fat rope. Never smoked cannabis, tuna pickle sandwiches in the back with Reggie and Shaq. I feel travel sick, let the stack get a little rack if you're counting it. Bitch behind the bar, kinda hot, she's a counterfeit. Now tell me how to write a fucking masterpiece. Skating all night, kinda drunk, so we're half asleep. Marker pens dancing on my face, you can laugh at me. Secondhand smoke, kinda logging up my arteries. Never spat a wrong word on a verse. You're not high, it's just a herb in the dirt. Flyer than a robin, I'm chirps in the birds. I burnt a couple bridges, that's the worst of my hurt. Used to be my nigga, now he's moving kinda different. Wishing money weren't an issue, but it's known as a curse. I'm an honest guy, I say what's on my mind. I laugh at your whims while they apologize. White wine in a teacup, shallow lies with some deep love. Eyes of a dreamer, like to be free, see my mind's kinda clean cut. Eyes on the prize, not my eyes on the pizza. Mellow fellow when I'm light in the reefer. Cold like ice in the freezer. Write something tight, hear it nice through the speaker. Wrote a poem and you thought it was a rap, but the truth is more important than the facts. Walking what I'm talking, no porkies on the track. Malice is the balance, mad erratic, made the maddest bangers. Pass a passer, let the happy slap, yeah, I'm the maddest hatter. See, my thoughts are kinda mad, like sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. So I'm a man of a few words, man of a few true words, but the truth hurts.